Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, et vous mes frères et sœurs en philosophie, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Voici le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous donnerons la parole à notre sœur Marie-Claude Savard, du Centre d'études Alain Kardec, Paix et Amour de Québec au Canada, qui poursuivra avec vous la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Cette lecture sera immédiatement suivie par une intervention de notre sœur Rosenite Alves de Oliveira, aidée pour la traduction simultanée par notre très cher frère Charles Kampf. Cet exposé, dont le thème était les fondements théoriques du livre des médiums et des pratiques médiuméniques d'aujourd'hui, fut présenté par notre sœur Rosenite lors du 12e symposium de la francophonie, les 4 et 5 juin derniers à Ouigimont. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires, ainsi qu'une très courte présentation de livres par notre sœur Arlette Jobé de la Fédération Spirite de Liège. Si vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas, nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. Mais dans l'immédiat, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Marie-Claude nous invite à poursuivre la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Chapitre 28, recueil de prières spirites, quatrième partie, prières pour ceux qui ne sont plus sur terre.
Chapitre 28, recueil de prières spirites. Numéro 4, prières pour ceux qui ne sont plus sur la terre. Titre, pour quelqu'un qui vient de mourir. Préface. Les prières pour les esprits qui viennent de quitter la terre n'ont pas seulement pour but de leur donner un témoignage de sympathie, mais elles ont encore pour effet d'aider à leur dégagement, et, par là, d'abréger le trouble qui suit toujours la séparation, et de rendre le réveil plus calme. Mais là encore, comme en toute autre circonstance, l'efficacité est dans la sincérité de la pensée, et non dans l'abondance de paroles dites avec plus ou moins de pompe, et auxquelles, le plus souvent, le cœur n'a aucune part. Les prières qui partent du cœur résonnent autour de l'esprit, dont les idées sont encore confuses, comme les voix amies qui viennent nous tirer du sommeil. Prière. Dieu Tout-Puissant, que votre miséricorde s'étende sur l'âme de 3 points. Que vous venez de rappeler à vous. Puissent les épreuves qu'il, ou elle, a subies sur la terre lui être comptées, et nos prières adoucir et abréger les peines qu'il peut encore endurer comme esprit. Bons esprits, qui êtes venus le recevoir, et vous surtout son ange gardien, assistez-le pour l'aider à se dépouiller de la matière. Donnez-lui la lumière et la conscience de lui-même, afin de le tirer du trouble qui accompagne le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle. Inspirez-lui le repentir des fautes qu'il a pu commettre et le désir qu'il lui soit permis de les réparer pour hâter son avancement vers la vie éternelle bienheureuse. 3 points. Vous venez de rentrer dans le monde des esprits et, cependant, vous êtes ici présent parmi nous. Vous nous voyez et nous entendez, car il n'y a de moins entre vous et nous que le corps périssable que vous venez de quitter et qui, bientôt, sera réduit en poussière. Vous avez quitté la grossière enveloppe sujette aux vicissitudes et à la mort, et vous n'avez conservé que l'enveloppe éthérée, impérissable et inaccessible aux souffrances. Si vous ne vivez plus par le corps, vous vivez de la vie des esprits, et cette vie est exempte des misères qui affligent l'humanité. Vous n'avez plus le voile qui dérobe à nos yeux les splendeurs de la vie future. Vous pourrez désormais contempler de nouvelles merveilles tandis que nous sommes encore plongés dans les ténèbres. Vous allez parcourir l'espace et visiter les mondes en toute liberté, tandis que nous rampons péniblement sur la terre où nous retient notre corps matériel, semblable pour nous à un lourd fardeau. L'horizon de l'infini va se dérouler devant vous et en présence de tant de grandeur, vous comprendrez la vanité de nos désirs terrestres, de nos ambitions mondaines et des joies futiles dont les hommes font leurs délices. La mort n'est entre les hommes qu'une séparation matérielle de quelques instants, du lieu d'exil où nous retient encore la volonté de Dieu, ainsi que les devoirs que nous avons à remplir ici-bas. Nous vous suivrons par la pensée jusqu'au moment où il nous sera permis de vous rejoindre comme vous avez rejoint ceux qui vous ont précédés. Si nous ne pouvons aller auprès de vous, vous pouvez venir auprès de nous. Venez donc parmi ceux qui vous aiment et que vous avez aimés. Soutenez-les dans les épreuves de la vie. Veillez sur ceux qui vous sont chers. Protégez-les selon votre pouvoir et adoucissez leurs regrets par la pensée que vous êtes plus heureux maintenant et la consolante certitude d'être un jour réunis à vous dans un monde meilleur. Dans le monde où vous êtes, tous les ressentiments terrestres doivent s'éteindre. Puissiez-vous, pour votre bonheur futur, y être désormais inaccessible. Pardonnez donc à ceux qui ont pu avoir des torts envers vous, comme ils vous pardonnent ceux que vous pouvez avoir eu envers eux. Note. On peut ajouter à cette prière, qui s'applique à tous, quelques paroles spéciales selon les circonstances particulières de famille ou de relation et la position du défunt. S'il s'agit d'un enfant, le spiritisme nous apprend que ce n'est point un esprit de création récente, mais qu'il a déjà vécu et qu'il peut être déjà très avancé. Si sa dernière existence a été courte, c'est qu'elle n'était qu'un complément d'épreuve, ou devait être une épreuve pour les parents. Autre prière. Seigneur Tout-Puissant, que cette miséricorde s'étende sur nos frères qui viennent de quitter la terre. Que votre lumière luise à leurs yeux. Sortez-les des ténèbres, ouvrez leurs yeux et leurs oreilles. Que vos bons esprits les entourent et leur fassent entendre des paroles de paix et d'espérance. Seigneur, quelque indignes que nous soyons, nous osons implorer votre miséricordieuse indulgence en faveur de celui de nos frères qui vient d'être appelé de l'exil. Faites que son retour soit celui de l'enfant prodigue. Oubliez, ô mon Dieu, les fautes qu'il a pu commettre pour vous souvenir du bien qu'il a pu faire. Votre justice est immuable, nous le savons, mais votre amour est immense. Nous vous supplions d'apaiser votre justice par cette source de bonté qui découle de vous. Que la lumière se fasse pour vous, mon frère, qui venez de quitter la terre. Que les bons esprits du Seigneur descendent vers vous, vous entoure et vous aide à secouer vos chaînes terrestres. Comprenez et voyez la grandeur de notre Maître. Soumettez-vous sans murmure à sa justice, mais ne désespérez jamais de sa miséricorde. Frères, qu'un sérieux retour sur votre passé vous ouvre les portes de l'avenir en vous faisant comprendre les fautes que vous laissez derrière vous et le travail qui vous reste à faire pour les réparer. Que Dieu vous pardonne et que ses bons esprits vous soutiennent et vous encouragent. Vos frères de la terre prieront pour vous et vous demandent de prier pour eux. Note. Cette prière a été dictée à un médium de Bordeaux au moment où passait devant ses fenêtres le convoi d'un inconnu. Titre. Pour les personnes que l'on a affectionnées. Préface. Quelle est affreuse l'idée du néant, qu'ils sont à plaindre ceux qui croient que la voix de l'ami qui pleure son ami se perd dans le vide et ne trouve aucun écho pour lui répondre. Ils n'ont jamais connu les pures et saintes affections. Ceux qui pensent que tout meurt avec le corps, que le génie qui a éclairé le monde de sa vaste intelligence est un jeu de la matière qui s'éteint à tout jamais comme un souffle, que de l'être le plus cher d'un père, d'une mère ou d'un enfant adoré, il ne reste qu'un peu de poussière que le temps dissipe sans retour. Comment un homme de cœur peut-il rester froid à cette pensée? Comment l'idée d'un anéantissement absolu ne le glace-t-elle pas d'effroi et ne lui fait-elle pas au moins désirer qu'il n'en soit pas ainsi? Si jusqu'à ce jour sa raison n'a pas suffi pour lever ses doutes, voilà que le spiritisme vient dissiper toute incertitude sur l'avenir par les preuves matérielles qu'il donne de la survivance de l'âme et de l'existence des êtres d'outre-tombe. Aussi, partout ces preuves sont-elles accueillies avec joie. La confiance renaît, car l'homme sait désormais que la vie terrestre n'est qu'un court passage qui conduit à une vie meilleure, que ses travaux d'ici-bas ne sont pas perdus pour lui, et que les plus saintes affections ne sont pas brisées sans espoir. Prière. Daignez, ô mon Dieu, accueillir favorablement la prière que je vous adresse pour l'esprit de... Faites-lui entrevoir vos divines clartés, et rendez-lui facile le chemin de la félicité éternelle. Permettez que les bons esprits lui portent mes paroles et ma pensée. Toi qui m'étais cher en ce monde, entends ma voix qui t'appelle pour te donner un nouveau gage de mon affection. Dieu a permis que tu fusses délivré le premier. Je ne saurais m'en plaindre sans égoïsme, car ce serait regretter pour toi les peines et les souffrances de la vie. J'attends donc avec résignation le moment de notre réunion dans le monde plus heureux où tu m'as précédé. Je sais que notre séparation n'est que momentanée et que, si longue qu'elle puisse me paraître, sa durée s'efface devant l'éternité de bonheur que Dieu promet à ses élus. Que sa bonté me préserve de rien faire qui puisse retarder cet instant désiré, et qu'il m'épargne ainsi la douleur de ne pas te retrouver au sortir de ma captivité terrestre. Oh, quelle est douce et consolante la certitude qu'il n'y a entre nous qu'un voile matériel qui te dérobe à ma vue. Que tu peux être là, à mes côtés, me voir et m'entendre comme autrefois, et mieux encore qu'autrefois, que tu ne m'oublies pas plus que je ne t'oublie moi-même, que nos pensées ne cessent pas de se confondre, et que la tienne me suit et me soutient toujours. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Titre. Pour les âmes souffrantes qui demandent des prières. Préface. Pour comprendre le soulagement que la prière peut procurer aux esprits souffrants, il faut se rapporter à son mode d'action qui est expliqué ci-dessus. Celui qui est pénétré de cette vérité prie avec plus de ferveur par la certitude de ne pas prier en vain. Prière. Dieu clément et miséricordieux, que votre bonté s'étende sur tous les esprits qui se recommandent à nos prières, et notamment sur l'âme de... Bons esprits, dont le bien est l'unique occupation, intercédez avec moi pour leur soulagement. Faites luire à leurs yeux un rayon d'espérance et que la divine lumière les éclaire sur les imperfections qui les éloignent du séjour des bienheureux. Ouvrez leur cœur au repentir et au désir de s'épurer pour hâter leur avancement. Faites-leur comprendre que, par leurs efforts, ils peuvent abréger le temps de leurs épreuves. Que Dieu, dans sa bonté, leur donne la force de persévérer dans leurs bonnes résolutions. Puissent ces paroles bienveillantes adoucir leurs peines en leur montrant qu'il est sur la terre des êtres qui savent y compatir et qui désirent leur bonheur. Autre prière. Nous vous prions, Seigneur, de répandre sur tous ceux qui souffrent, soit dans l'espace, comme esprit errant, soit parmi nous, comme esprit incarné, les grâces de votre amour et de votre miséricorde. Prenez en pitié nos faiblesses. Vous nous avez fait faillibles, mais vous nous avez donné la force de résister au mal et de le vaincre. Que votre miséricorde s'étende sur tous ceux qui n'ont pu résister à leurs mauvais penchants, et sont encore entraînés dans une mauvaise voie. Que vos bons esprits les entourent, que votre lumière luise à leurs yeux, et qu'attirés par sa chaleur vivifiante, ils viennent se prosterner à vos pieds, humbles, repentants et soumis. Nous vous prions également, Père de miséricorde, pour ceux de nos frères qui n'ont pas eu la force de supporter leur épreuve terrestre. Vous nous donnez un fardeau à porter, Seigneur, et nous ne devons le déposer qu'à vos pieds. Mais notre faiblesse est grande, et le courage nous manque quelquefois en route. Ayez pitié de ces serviteurs indolents qui ont abandonné l'œuvre avant l'heure. Que votre justice les épargne et permette à vos bons esprits de leur apporter le soulagement, les consolations et l'espoir de l'avenir. La vue du pardon est fortifiante pour l'âme. Montrez-le, Seigneur, au coupable qui désespère, et soutenu par cette espérance, ils puiseront des forces dans la grandeur même de leurs fautes et de leurs souffrances pour racheter leur passé et se préparer à conquérir l'avenir. Titre : Pour un ennemi mort. Préface : La charité envers nos ennemis doit les suivre au-delà de la tombe. Il faut songer que le mal qu'ils nous ont fait a été pour nous une épreuve qui a pu être utile à notre avancement, si nous avons su en profiter. Elle a pu nous être encore plus profitable que les afflictions purement matérielles, en ce que, au courage et à la résignation, elle nous a permis d'y joindre la charité et l'oubli des offenses. Prière. Seigneur, il vous a plu de rappeler avant moi l'âme de... Je lui pardonne le mal qu'il m'a fait et ses mauvaises intentions à mon égard. Puisse-t-il en avoir du regret, maintenant qu'il n'a plus les illusions de ce monde? Que votre miséricorde, mon Dieu, s'étende sur lui et éloigne de moi la pensée de me réjouir de sa mort. Si j'ai eu des torts envers lui, qu'il me les pardonne, comme j'oublie ceux qu'il a eus envers moi. Titre : Pour un criminel. Préface. Si l'efficacité des prières était proportionnée à leur longueur, les plus longues devraient être réservées pour les plus coupables, parce qu'ils en ont plus besoin que ceux qui ont saintement vécu. Les refuser aux criminels, c'est manquer de charité et méconnaître la miséricorde de Dieu. Les croire inutiles parce qu'un homme aura commis telle ou telle faute, c'est préjuger la justice du Très-Haut. Prière. Seigneur Dieu de miséricorde, ne repoussez pas ce criminel qui vient de quitter la terre. La justice des hommes a pu le frapper, mais elle ne l'affranchit pas de votre justice, si son cœur n'a pas été touché par le remords. Levez le bandeau qui lui cache la gravité de ses fautes. Puisse son repentir trouver grâce devant vous et alléger les souffrances de son âme. Puisse aussi nos prières et l'intercession des bons esprits lui porter l'espérance et la consolation, lui inspirer le désir de réparer ses mauvaises actions dans une nouvelle existence, et lui donner la force de ne pas succomber dans les nouvelles luttes qu'il entreprendra. Seigneur, ayez pitié de lui. Titre : Pour un suicidé. Préface. L'homme n'a jamais le droit de disposer de sa propre vie, car à Dieu seul appartient de le tirer de la captivité terrestre quand il le juge à propos. Toutefois, la justice divine peut adoucir ses rigueurs en faveur des circonstances, mais elle réserve toute sa sévérité pour celui qui a voulu se soustraire aux épreuves de la vie. Le suicidé est comme le prisonnier qui s'évade de sa prison avant l'expiation de sa peine, et qui, lorsqu'il est repris, est tenu plus sévèrement. Ainsi en est-il du suicidé qui doit échapper aux misères présentes et se plonge dans des malheurs plus grands. Prière. Nous savons, ô mon Dieu, le sort réservé à ceux qui violent vos lois en abrégeant volontairement leurs jours. Mais nous savons aussi que votre miséricorde est infinie. Daignez l'étendre sur l'âme de... Puissent nos prières et votre commisération adoucir l'amertume des souffrances qu'il endure pour n'avoir pas eu le courage d'attendre la fin de ses épreuves. Bons esprits dont la mission est d'assister les malheureux, prenez-le sous votre protection. Inspirez-lui le regret de sa faute et que votre assistance lui donne la force de supporter avec plus de résignation les nouvelles épreuves qu'il aura à subir pour la réparer. Écartez de lui les mauvais esprits qui pourraient de nouveau le porter au mal et prolonger ses souffrances en lui faisant perdre le fruit de ses futures épreuves. Vous, dont le malheur fait l'objet de nos prières, puisse notre commisération en adoucir l'amertume et faire naître en vous l'espérance d'un avenir meilleur. Cet avenir est entre vos mains. Confiez-vous en la bonté de Dieu, dont le sein est ouvert à tous les repentirs et ne reste fermé qu'aux cœurs endurcis. Titre: Pour les esprits repentants. Préface. Il serait injuste de ranger dans la catégorie des mauvais esprits les esprits souffrants et repentants qui demandent des prières. Ceux-là ont pu être mauvais, mais ils ne le sont plus du moment qu'ils reconnaissent leurs fautes et les regrettent. Ils ne sont que malheureux. Quelques-uns même commencent à jouir de bonheur relatif. Prière. Dieu de miséricorde, qui a accepté le repentir sincère du pécheur, incarné ou désincarné, voici un esprit qui s'était complu au mal, mais qui reconnaît ses torts et entre dans la bonne voie. Daignez, ô mon Dieu, le recevoir comme un enfant prodigue et lui pardonner. Bons esprits dont il a méconnu la voie, il veut vous écouter désormais. Permettez-lui d'entrevoir la félicité des élus du Seigneur, afin qu'il persiste dans le désir de se purifier pour y atteindre. Soutenez-le dans ses bonnes résolutions, et donnez-lui la force de résister à ses mauvais instincts. Esprit de 3 points. Nous vous félicitons de votre changement et nous remercions les bons esprits qui vous ont aidé. Si vous vous complaisiez autrefois à faire le mal, c'est que vous ne compreniez pas combien est douce la jouissance de faire le bien. Vous vous sentiez aussi trop bas pour espérer y atteindre. Mais dès l'instant où vous avez mis le pied dans la bonne route, une lumière nouvelle s'est faite pour vous. Vous avez commencé à goûter d'un bonheur inconnu, et l'espérance est entrée dans votre cœur. C'est que Dieu écoute toujours la prière du pécheur repentant. Il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. Pour rentrer complètement en grâce auprès de lui, appliquez-vous désormais non seulement à ne plus faire de mal, mais à faire le bien et surtout à réparer le mal que vous avez fait. Alors, vous aurez satisfait à la justice de Dieu. Chaque bonne action effacera une de vos fautes passées. Le premier pas est fait. Maintenant, plus vous avancez, plus le chemin vous semblera facile et agréable. Persévérez donc, et un jour vous aurez la gloire de compter parmi les bons esprits et les esprits bienheureux. Titre: Pour les esprits endurcis. Préface. Les mauvais esprits sont ceux que le repentir n'a point encore touchés, qui se plaisent au mal et n'en conçoivent aucun regret, qui sont insensibles aux reproches, repoussent la prière et souvent blasphèment le nom de Dieu. Ce sont ces âmes endurcies qui, après la mort, se vengent sur les hommes des souffrances qu'ils endurent, et poursuivent de leur haine ceux à qui ils en ont voulu pendant leur vie, soit par l'obsession, soit par une funeste influence quelconque. Parmi les esprits pervers, il y a deux catégories bien distinctes, ceux qui sont franchement mauvais et ceux qui sont hypocrites. Les premiers sont infiniment plus faciles à ramener au bien que les seconds. Ce sont le plus souvent des natures brutes et grossières, comme on en voit parmi les hommes, qui font le mal plus par instinct que par calcul, et ne cherchent pas à se faire passer pour meilleurs qu'ils ne sont. Mais il y a en eux un germe latent qu'il faut faire éclore, et l'on y parvient presque toujours avec la persévérance, la fermeté jointe à la bienveillance par les conseils, les raisonnements et la prière. Dans la médiumnité, la difficulté qu'ils ont à écrire le nom de Dieu est l'indice d'une crainte instinctive, d'une voix intime de la conscience qui leur dit qu'ils en sont indignes. Celui qui en est là est sur le seuil de la conversion, et l'on peut tout espérer de lui. Il suffit de trouver le point vulnérable du cœur. Les esprits hypocrites sont presque toujours très intelligents, mais ils n'ont au cœur aucune fibre sensible. Rien ne les touche. Ils simulent tous les bons sentiments pour capter la confiance et sont heureux quand ils trouvent des dupes qui les acceptent comme de Saint-Esprit et qu'ils peuvent gouverner à leur gré. Le nom de Dieu, loin de leur inspirer la moindre crainte, leur sert de masque pour couvrir leur turpitude. Dans le monde invisible comme dans le monde visible, les hypocrites sont les êtres les plus dangereux parce qu'ils agissent dans l'ombre et qu'on ne s'en méfie pas. Ils n'ont que les apparences de la foi, mais point de foi sincère. Prière. Seigneur, daignez jeter un regard de bonté sur les esprits imparfaits qui sont encore dans les ténèbres de l'ignorance et vous méconnaissent. et notamment sur celui de trois petits points. Bons esprits, aidez-nous à lui faire comprendre qu'en induisant les hommes au mal, en les obsédant et en les tourmentant, il prolonge ses propres souffrances. Faites que l'exemple du bonheur dont vous jouissez soit un encouragement pour lui. Esprit qui vous complaisez encore au mal, vous venez d'entendre la prière que nous faisons pour vous. Elle doit vous prouver que nous désirons vous faire du bien, quoique vous fassiez du mal. Vous êtes malheureux car il est impossible d'être heureux en faisant le mal. Pourquoi donc rester dans la peine quand il dépend de vous d'en sortir? Regardez les bons esprits qui vous entourent, voyez combien ils sont heureux, et s'il ne serait pas plus agréable pour vous de jouir du même bonheur. Vous direz que cela vous est impossible, mais rien n'est impossible à celui qui veut, car Dieu vous a donné, comme à toutes ses créatures, la liberté de choisir entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre le bonheur et le malheur, et nul n'est condamné à faire le mal. Si vous avez la volonté de le faire, vous pouvez avoir celle de faire le bien et d'être heureux. Tournez vos regards vers Dieu, élevez-vous un seul instant vers lui par la pensée, et un rayon de sa divine lumière viendra vous éclairer. Dites avec nous ces simples paroles, « Mon Dieu, je me repens, pardonnez-moi. » Essayez de repentir et de faire le bien au lieu de faire le mal. Et vous verrez qu'aussitôt sa miséricorde s'étendra sur vous et qu'un bien-être inconnu viendra remplacer les angoisses que vous endurez. Une fois que vous aurez fait un pas dans la bonne route, le reste du chemin vous semblera facile. Vous comprendrez alors combien de temps vous avez perdu par votre faute pour votre félicité. Mais un avenir radieux et plein d'espérance s'ouvrira devant vous et vous fera oublier votre misérable passé, plein de troubles et de tortures morales, qui seraient pour vous l'enfer si elles devaient durer éternellement. Un jour viendra que ces tortures seront telles qu'à tout prix vous voudrez les faire cesser, mais plus vous attendrez, plus cela vous sera difficile. Ne croyez pas que vous resterez toujours dans l'état où vous êtes. Non, cela est impossible. Vous avez devant vous deux perspectives. L'une de souffrir beaucoup plus que vous ne le faites maintenant, l'autre d'être heureux comme les bons esprits qui sont autour de vous. La première est inévitable si vous persistez dans votre obstination. Un simple effort de votre volonté suffit pour vous tirer du mauvais pas où vous êtes. Hâtez-vous donc, car chaque jour de retard est un jour perdu pour votre bonheur. Bons esprits, faites que ces paroles trouvent accès dans cette âme encore arriérée, afin qu'elle l'aide à se rapprocher de Dieu. Nous vous en prions au nom de Jésus-Christ, qui eut un si grand pouvoir sur les mauvais esprits.
Nous appelons notre sœur Roselyne Arlovez de Oliveira, j'espère que j'ai bien prononcé, de France, Dijon, qui nous parlera des fondements théoriques du livre des médiums et des pratiques médiumniques d'aujourd'hui.
Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation à l'Union Spirit Belge. C'est avec grande joie que je suis là, dans cette famille européenne, et c'est très bien de nous trouver ici, et dans l'union et dans l'unification. Et c'était très bien d'entendre monsieur le président de la Fédération Espérite, monsieur Mazot. Donc, je préparais un matériel pour parler en français, mais avec tous nos amis brésiliens qui sont là, je me suis permis de faire une version française et une version brésilienne. Donc, je vais être, j'essaie de trouver une dynamique pour que ça soit assez rapide pour que je puisse parler les sujets qui nous ont été donnés, les fondements théoriques du livre de médium et les pratiques médiumniques d'aujourd'hui. Bom. É com grande alegria que eu estou aqui, agradecendo a União Espírita Belga, participando desse momento da família espírita europeia, com alguns amigos brasileiros, com o seu ministro Mazotti, que veio participar conosco, para falar sobre o fundamento teórico do livro dos médiuns e a prática mediúnica hoje. Eu vou tentar falar rápido para dar uma dinâmica e poder explorar os slides em francês e em português. Merci, Charles. Donc, l'introduction, notre but, on commence par le 150e anniversaire du livre des médiums, qui par Kardec à Paris, les 15, qui a publié à Paris le 15 janvier 1861, et qu'il nous a apporté des éléments qui sont très importants aujourd'hui. Et en suivant les paroles de M. Mazot, je vis combien Kardec est actuel et combien on peut regarder aujourd'hui ce qu'il a dit à 150 ans et ce qu'on cherche à faire de notre doctrine aujourd'hui. Donc, il avait publié une instruction pratique en 1858 qu'il avait considérée trop limitée et en 61, il nous a présenté le livre des médiums pour nous apporter ses expériences élargies, approfondies sur la médiumnité. Donc, Allan Kardec, na introdução do livro dos médiums, que foi publicado em 15 de janeiro de 1861 em Paris, Kardec, que havia publicado o livro Instruções Práticas como guia para os médiums na prática da mediunidade, ele, considerando as experiências dele, os estudos aprofundados, com um laço muito mais vasto de considerações, ele publica o livro dos médiums, trazendo para nós informações que ele vai considerar essenciais para todos nós na prática mediúnica e que permanecem até hoje. Donc, il nous dit, il nous présente dans son exposé que d'abord il avait publié le livre des esprits et que le livre des médiums a une relation intime avec le livre des esprits. Il y a une indépendance, mais il y a aussi une relation qu'on ne peut pas oublier parce que les deux ouvrages, quoique les deux ensemble sont séparés, mais elles ont une unité que nous devons jamais l'oublier. Donc, il faut s'occuper de la médiumnité, mais il faut d'abord commencer nos études par les livres des esprits. Jamais oublier que nous devons toujours commencer dans la doctrine par les livres des esprits. Kardec. Kardec havia lançado o livro dos Espíritos em 1857. Quando ele lança o livro dos Médiuns, ele chama a atenção para a relação que existe entre os dois livros, que será o segundo livro da codificação. Então ele diz que esses livros são independentes entre si, mas que guardam uma relação importante, porque é no livro dos Espíritos que está o fundamento da doutrina espírita. E ele nos diz que quando nós começamos na doutrina, nós devemos começar sempre pelo livro dos Espíritos. E ele nos diz: l'expérience nous confirme que les difficultés et les mécontes que l'on rencontre dans la pratique du spiritisme ont leur source dans l'ignorance des principes de cette science. Donc, il nous fait penser à qu'il faut d'abord connaître les principes, quelles sont les bases du spiritisme, pour qu'on puisse chercher la pratique de la médiumnité. Ils nous disent tous les jours: a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios da doutrina espírita. Nós queremos vivenciar a mediunidade sem nos indagarmos, sem nos aprofundarmos nos aspectos essenciais da doutrina espírita, nos seus princípios fundadores. Mais il nous dit, à côté des médiums, proprement dit, il y a la foule qui s'accroît tous les jours des personnes qui s'occupent des manifestations spirituelles. Et ça, c'est très important, parce que quand on parle médiumnité, pratique médiumnique, on pense qu'au médium. Et Kardec, à 150 ans, il nous a averti qu'à côté du médium, il y a une foule de personnes qui nous devons faire très attention, nous occuper de ces personnes. Ils disent de par com os médios propriamente ditos, a acrescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. E esse aumento, essa multidão cresce todos os dias. O aumento, a divulgação da doutrina espírita faz crescer as atividades espíritas. Então essa multidão, ela cresce todos os dias. Mas Kardec já tinha visto crescer a época dele. E o fenômeno, ele continua num grande movimento. A partir de ser compreensão de Kardec, ele vai etablir quels sont l'objet, quel est l'objet du livre des médiums. Parce que Kardec, il n'était pas inquiet simplement de la compréhension, de la formation, du développement des médiums. Mais il était inquiet de la formation et du développement de personnes préparées pour travailler dans tous ces domaines de la médiumnité, soit il était inquiet avec la foule de personnes qui devaient être préparées pour travailler à la médiumnité, ou avec la médiumnité. Donc il nous dit, qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse à partir du travail du livre des médiums? Il faut indiquer les moyens de développer la faculté médiumnique. Donc Kardec, qui está preocupado em formar todas as pessoas que fazem parte desse número que cresce, dessa multidão de pessoas que estão em volta da mediunidade, Kardec, ele, através do livro dos médiuns, ele diz que é preciso dar meios de desenvolver a faculdade mediúnica. Mas não só da faculdade mediúnica, mas capacitar todas essas pessoas, como nós vamos ver. Il dit diriger l'emploi d'une manière utile lorsque la faculté existe. Il dit que nous só podemos desenvolver uma faculdade mediúnica que existe naturalmente na pessoa. Nós não podemos fazer um médium. Nós podemos auxiliá-lo a desenvolver a sua faculdade através da educação. Donc, Kardec dit il faut diriger l'emploi d'une manière utile lorsque la faculté existe. Se ela é lá, on pourra la travailler et estimuler par la formation, par l'éducation, pour qu'elle puisse se développer. Les guider dans les observations. Pour les gens qui sont autour ou qui sont intégrés dans des activités médiumniques, elles doivent faire des observations. Non seulement les médiums, mais toutes les autres personnes, parce que nous avons tous ces responsabilités, que Kardec utilise un mot très précis, sont des responsabilités graves, c'est le mot qu'il emploie. Donc il nous faut avoir les sens d'observation. Les signaler les écueils qu'ils peuvent et doivent nécessairement rencontrer. Donc elles disent que nous avons que observer tous nous qui sommes dans la médiumnité, e que nós podemos guiar as pessoas, os responsáveis das atividades, das formações, nós devemos...
Obrigada.
Nós devemos orientar sobre as dificuldades que nós encontramos necessariamente na prática da mediunidade. Bom, então ele diz que nós devemos assinalar os obstáculos, né, que nós encontramos na mediunidade. Ele diz encore, les inciter à la manière de s'entretenir avec les esprits. Então nós temos que iniciar as pessoas na maneira de se dirigir e de falar aos espíritos. Porque na mediunidade, o objetivo é que nós possamos dialogar com eles. E para isso, é preciso ter condições especialíssimas, formação apropriada para saber qual é a oportunidade do que nós devemos perguntar,
e daquilo que nós podemos falar. Leur indiquer les moyens d'avoir de bonnes communications. Le but, c'est que nous ayons de bonnes communications avec les esprits, pour qu'ils puissent nous guider, qu'ils puissent nous conduire dans nos besoins, dans nos luttes. Donc, Kardec dit, sont ces choses-là, sont ces aspects-là qu'il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble pour mettre en condition un travail complet, soit que nous ayons la possibilité de guider toute cette foule de personnes pour que nous ayons un travail complet. Kardec diz então que nós devemos iniciar essas pessoas na maneira de confabularem com os espíritos, para que a gente saiba como falar com os espíritos. Indicar-lhes os meios de conseguir boas comunicações. O objetivo que todos nós procuramos, as boas comunicações com os espíritos. E ele diz, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Se o centro espírita está preocupado apenas em formar o médium, ostensivo, patente, nós podemos fazer um trabalho que não atenda nem às necessidades do médium, nem às necessidades do centro espírita, nem à finalidade primeira da doutrina espírita, que é nos guiar nas nossas relações com os espíritos. Então, a pergunta, la question que on fait, que sont ces personnes qui s'occupent des manifestations spirituelles? Et Don Allan Kardec demande qu'elles soient prises en charge pour que les pratiques spirituelles soient une chose complète. Quem são as pessoas que se ocupam das comunicações espíritas e que Allan Kardec considera que elas devem ser orientadas para que o trabalho espírita seja completo? Nós vamos ver até o final do nosso trabalho. Nous avons réussi de faire un tableau pour qu'on ait une idée de tout ce qui a été dit et fait par Kardec dans le livre des médiums, pour qu'on ait une idée de profondeur des sujets, des matières et des besoins que nous avons dans le centre spirit de connaître ces livres pour que nous ayons des possibilités d'arriver à un travail sérieux et profitable pour nous tous. Donc, il y a une introduction où Kardec parle de tout ce que je viens de vous dire et qui précise l'objet du livre des médiums. Et une première partie où il met une question philosophique. Il y a des esprits? C'est la question essentielle qu'il nous met comme ouverture de ce livre, qui nous mène à parcourir tout ce qu'il a écrit comme besoin de la médiumnité et des connaissances pour les médiums. Allan Kardec, então, nós fizemos esse quadro para que a gente tenha uma ideia do conjunto das matérias do livro dos médiums. E nós vemos na introdução que Kardec estabelece o objeto desse livro, que foi o que nós falamos. Mas, na primeira parte, ele nos coloca uma questão filosófica como fundamento de tudo aquilo que ele vai desenvolver no livro dos médiuns, para que nós possamos buscar as respostas. E essa pergunta essencial, que é uma pergunta filosófica, é a questão se... Como nós podemos ver, a questão é, há espíritos? Nós não podemos avançar na doutrina espírita, nem nas experiências espíritas, na prática espírita, se nós não aceitamos a existência dos espíritos. Então, a essência primeira está na aceitação da existência dos espíritos. E a partir dessa questão filosófica, Kardec vai desenvolver toda a obra do livro dos espíritos. Então, nós vamos ver, on retourne, donc on peut voir l'action des esprits sur les matières, il y a tout un tableau de matière qu'il va nous expliquer dans la deuxième partie. Il va nous montrer les natures des communications. Il nous montre les possibilités des médiums et de la médiumnité. Et surtout, il nous donne les moyens pour qu'on ait des informations sur les réunions médiumniques et les sociétés spirites. Toute l'action, nous allons voir, se centre sur ces deux éléments, les réunions et les sociétés spirites. Donc, Kardec, na segunda parte, nos dá um quadro de matérias, partindo da compreensão da ação dos espíritos sobre a matéria. Ele vai desenvolver uma base teórica da natureza das comunicações mediúnicas, para que nós tenhamos todo um leque de informações. Vai nos falar dos médiuns e da mediunidade, dos tipos de médiuns, da possibilidade dos tipos de comunicação. E, principalmente, ele nos dá o fundamento das reuniões, de uma reunião mediúnica e de uma sociedade espírita, no final, fazendo a relação entre a reunião e a sociedade espírita, que é muito importante. Donc, voilà la question. Y a-t-il des esprits? Ça, c'est la question que Kardec nous présente. Pour qu'on puisse se poser la question et savoir quelle est la réponse qu'on trouve en nous. Est-ce qu'on croit à l'existence des esprits? Et comment on arrive à croire aux esprits? Donc, c'est le but que Kardec nous amène pour que nous ayons cette réponse. A resposta a essa questão é essencial por seu ponto de partida. A existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, que o Espiritismo é a sua demonstração teórica e dogmática. Donc, la réponse essentielle, c'est trouver justement la compréhension de que nous avons de l'existence, la survivance et l'individualité de l'âme dans le spiritisme est la démonstration théorique et dogmatique. Donc, à partir de ce moment-là, si on accepte, on peut justement chercher les moyens de connaître de manière approfondie la pratique du spiritisme. Quels sont les fondements théoriques des livres des médiums? Il y a une question deuxième qui est très importante. Kardec nous dit que l'esprit peut se communiquer à l'homme, c'est-à-dire s'il peut faire avec lui échange de pensées. Combien de personnes ici se posent des questions? Est-ce que les esprits peuvent se communiquer avec nous? Tout le monde pose cette question. Et comment on peut y arriver dans une relation avec les esprits? O espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias de uma forma objetiva e simples, foi a maneira que Kardec nos colocou para que a gente possa raciocinar e buscar a compreensão através da vivência. Kardec nos apoderou de questões filosóficas. Il était un scientifique, un philosophe, un libre penseur. Donc, il nous amène des questions et d'autres. J'ai dit ces deux-là comme principal pour moi dans mon exposé. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et pour répondre à ces questions, Kardec va nous présenter une méthode scientifique. Une méthode pour qu'on puisse aujourd'hui faire exactement comme il a fait à son époque, et dans 100 ans, 150 ans, dans l'avenir, on aura toujours une méthode expérimentale qu'on pourra tester à nouveau ce que Kardec nous a dit, et on pourra développer nos connaissances spirites à partir de cette méthode-là. Donc, c'est une méthode scientifique que Kardec nous apporte pour qu'on puisse travailler la science spirite. Kardec, para responder às questões filosóficas, ele nos traz um método científico para que nós possamos aplicar seus instrumentos de observação, de experimentação, de teste e de conclusão, para que a gente possa prosseguir nos esforços de conhecimento da doutrina espírita. La méthode... La méthode, excusez-moi. La méthode espírita, on a résumé. D'abord, Kardec nous dit qu'il faut procéder du connu à l'inconnu. Il est à partir d'étapes tournantes pour arriver à une information scientifique la plus ample au niveau de l'espiritualité, du spiritualisme, comme il a réussi à faire, partir de quelque chose qui était connu à l'époque, pour arriver à un univers qui était inconnu, qui nous a légué par la grâce de Dieu. Commencer par le plus simple, comme notre Nestor nous a raconté, nos amis, il faut commencer par le plus simple et arriver au plus complexe. Donc, c'est tout un travail de longue haleine qu'on a besoin pour en arriver au résultat qu'on souhaite. Observer, attendre les résultats. Mais il dit, pour obtenir ces résultats, il faut des personnes douées des facultés spéciales, qui sont les médiums. Mais il dit, tout ça doit être précédé par l'étude de la théorie. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut d'abord commencer par les livres des esprits. Il faut d'abord connaître la théorie pour pouvoir essayer la pratique du spiritisme. Kardec nous suggère, nous dá como método, proceder do conhecido para o desconhecido. Como ele mesmo fez. Tudo isso que Kardec nos coloca como método, foi o método que ele desenvolveu. Através das práticas que ele participou. Então ele começou indo ver o movimento das mesas girantes. E a partir das mesas girantes, que ele a princípio duvidou da veracidade desse fenômeno, ele pode procurar aquilo que era desconhecido. A lei que estava por trás desse conhecimento, como ele disse. Há uma lei. E essa lei nós precisamos trabalhar e descobrir. Começar pelo mais simples para chegar ao mais complexo. Como ele nos deixou o exemplo. Observar e esperar os resultados. Para obter os resultados, porém, é preciso contar com pessoas dotadas de faculdades especiais. Porque o que ele quer observar é exatamente a nossa capacidade em relação com os espíritos. São as práticas mediúnicas, as comunicações mediúnicas. Então, por isso, nós temos que ter pessoas com faculdades especiais. Mas tudo partindo do estudo preliminar da teoria. E essa teoria, e essa ciência, e essa filosofia está toda contida em um livro dos Espíritos e desenvolvida na prática pelo livro dos Médiuns. Então, rapidamente, né? Que é mediúnico? E há um desejo de saber, je suis médium, j'ai jamais rien senti, j'ai jamais rien vu, donc on a une certaine angoisse de savoir si oui ou non nous sommes des médiums. Isso é até uma questão essencial que Kardec nos a respondeu. Toda pessoa que ressent um degré quelconque l'influence des esprits é passée la même médium. Cette faculté, elle est inhérente à l'homme. Tout le monde, oui, je sais, tout le monde est médium. Kardec a voulu dire ça pour nous. Mais on dit, oui, tout le monde est médium, mais moi, je ne sais pas quelle est la médiumnité que je porte en moi. Donc, il faut se poser la question. Kardec nos diz quem é médium, todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos e por esse fato é médium. Quel est le rôle du médium? E les médiums sont les interprètes des esprits. Ils ont une mission particulière. Ce sont des arbres qui doivent donner de la nourriture spirituelle à leurs frères. Ils sont multipliés pour que la nourriture soit abondante.
Il a dit qu'il y avait une foule qui l'a augmenté jour à jour. Et là, il dit que les médiums, ils vont augmenter en quantité, mais il faut qu'on ait les moyens pour que cette unité soit de qualité. C'est pour ça que toute notre action dans le mouvement spirit doit être vers la formation et la capacitation des personnes pour qu'elles aient les meilleures possibilités possibles de vivre la médiumnité. Os médiums são os intérpretes dos espíritos. Desculpem a falta de acento. É que eu tive que fazer hoje, o computador não tinha português. Então, depois eu vou fazer uma versão corrigida e vou enviar. Eles têm uma missão especial. São árvores destinadas a oferecer alimento espiritual aos seus irmãos. Eles se multiplicam para que o alimento seja abundante. Eis a nossa responsabilidade de que os médiuns e todo esse quadro de pessoas que estão em volta deles nas casas espíritas tenham condições de maturidade, de formação, para que o trabalho sério e grave da mediunidade possa ser realizado. Então, Kardec nous dit, l'esprit n'est pas une abstraction. C'est un être défini, limité et circonscrit. Donc, il nous dit qu'il y a des esprits, la réponse elle est positive, et il nous définit qui c'est l'esprit. Il dit que c'est un être défini, limité et circonscrit. Et pour qu'on comprenne mieux cette information si importante pour nous tous, il dit que nous avons en nous, nous les hommes, nous incarnés, trois choses. L'âme, ou l'esprit, principe intelligent en qui réside l'essence morale, le corps, enveloppe grossière matérielle, et périsprit, enveloppe fluidique, semi-matérielle, servant des liens entre l'âme et le corps. Donc nous sommes en effet trois choses à une seule. Et cette information, elle est très importante pour la connaissance de la médiumnité et surtout pour l'expérimentation de la médiumnité. Kardec dit, le spirit n'est pas une abstraction. É um ser definido, limitado e circunscrito. O homem tem em si, ou nós temos em nós, três coisas. A alma ou espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. O corpo, invólucro grosseiro, material de que ele se revestiu temporariamente. E o perispírito, que é um envoltório fluídico, semimaterial, que é certo de ligação entre a alma e o corpo. Et la question, quel est le rôle du père-esprit? Parce que notre corps, nous connaissons le rôle. Notre esprit, on sait que c'est l'être qui pense, qui agit et qui sent notre dimension spirituelle. Donc, la question, c'est de savoir quel est le rôle du père-esprit qui malheureusement ne peut pas travailler et faire une exposition par rapport à ce sujet-là si important. Il dit que c'est l'intermédiaire de toutes les sensations qui perçoit l'esprit. Et c'est le fil électrique conducteur qui sert à la réception et à la transmission de la pensée. Qual o papel do perispírito? Kardec nous dit, é o intermédiaire de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, é uma das nossas sensações. Tudo que nós ressentimos, na nossa capacidade sensitiva, ela é um resultado da ação do nosso perispírito. Ele diz, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Portanto, o perispírito está diretamente ligado à nossa faculdade de pensar e agir. À partir de ces éléments, de l'esprit, de notre condition humaine, en sachant qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons en nous dans notre dimension spirituelle, Kardec nous allons voir, il nous offre les conditions de savoir comment peut faire cette pratique médiumnique. Il avait dit qui est à côté du médium, il y avait une foule de personnes. Et là, on va savoir, parce qu'il faut qu'on ait une possibilité de compréhension de la médiumnité, mais on ne pourra jamais faire ça, effectivement, en regardant que le médium. Il faut toujours avoir l'ensemble de ces personnes pour que nous puissions travailler la médiumnité, effectivement. Donc, qui sont ces personnes? As práticas mediúnicas e as sociedades espíritas, então ao lado dos médiuns, nós temos sempre que na casa espírita, na sociedade espírita, procurar a compreensão da mediunidade, não procurando entender exclusivamente a figura do médium e a mediunidade, mas o conjunto dessas pessoas que fazem parte das práticas mediúnicas e que o resultado dessas práticas vai depender das condições das pessoas que participam delas. Alors, les réunions spirites ont un caractère très différent suivant le but qu'on s'y propose. Et leur condition d'être doit passer la même, différer aussi. Selon leur nature, elles peuvent être frivoles, expérimentales ou instructives. Donc, Kardec, à son époque, il a constaté la différence selon le but qu'on pourrait donner aux réunions. Et cette question d'une classification d'une nature différente, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que Kardec nous a dit, pendant, au long de ces 150 ans, on a constaté que ça se confirme et toutes les informations que les esprits supérieurs sont venus nous apporter pour un complément des informations que Kardec nous a léguées, des enseignements, nous montrent qu'effectivement, tout ça, c'est exactement comme nous a informé. Donc, as réunions apresentam caractères différents conforme o fim com que elas se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. À época de Kardec, as reuniões frívolas eram exatamente as reuniões das mesas que existiam nos salões de Paris ou da Europa, onde as pessoas sentavam para indagar os espíritos sobre o futuro de cada um ou as condições das pessoas que, dos seus entes queridos que já tinham desencarnado, fazer perguntas, mas sem um objetivo elevado, simplesmente pela curiosidade. Esse tipo de reunião, efetivamente, nós, dentro do movimento espírita, e eu espero que isso seja uma verdade, essas reuniões frívolas, hoje, nós não consideramos no movimento espírita. Nós trabalhamos na perspectiva de reuniões sérias, experimentais e instrutivas. Então, as reuniões frívolas, nós não as trabalhamos hoje com uma natureza, uma especificidade. Nós passamos essa etapa. Les pratiques médiumniques font partie des activités accomplies par les membres des sociétés au centre espírite selon les conditions établies par les règlements. Comme le sauveur Thomasot nous a parlé, les organisations spirites, elles sont des sociétés qui ont des règlements où toutes les conditions de fonctionnement d'existence, elles sont établies et sont des conditions qu'on doit observer à l'intérieur et pour le fonctionnement de ces sociétés. Et les activités médiumniques, elles sont là-dedans et elles doivent suivre aussi ces règlements. Toutes les personnes qui sont dans une société spirite doivent se conformer et suivre ces règlements. Ça, c'est très important. Et la médiumnité, elle n'est pas une exception. Il faut qu'on ait un règlement et que surtout on soit conforme à ce règlement dans nos pratiques médiumniques. As práticas mediúnicas integram as atividades realizadas pelos membros dos centros espíritas de acordo com as condições estabelecidas no seu regulamento. Então, é importante que nós saibamos sempre que nós não podemos fazer a mediunidade segundo o nosso bel prazer. A mediunidade tem regras, as casas espíritas, as sociedades espíritas são estabelecidas por regulamento, por uma norma, e que nós devemos seguir essas normas absolutamente. A nossa liberdade é de acordo com aquilo que está estabelecido, que todos os regulamentos, como Kardec nos deixou o modelo, ela se estabelece a partir do respeito aos princípios espíritas. Então, as atividades mediúnicas, elas se dão nas sociedades, nos centros espíritas, isso na compreensão espírita que nos interessa, no movimento espírita. Elas estão dentro de um quadro, de uma organização, de uma sociedade, de um centro espírita, e elas devem atender às condições. Dans cette possibilité, on va voir les activités médiuniques à partir dans le cadre de réunions médiuniques au des dos esprits souffrant, c'est une nature de réunion aujourd'hui. Nous pouvons avoir dans le cadre des réunions d'études et formation des médiums, qui est aussi une réunion médiumnique, mais dans une autre perspective de formation des médiums de tous ces gens qui sont autour de la médiumnité. Et nous avons aussi dans le cadre des activités d'imposition des mains ou des passes. Il y a les groupes qui se font pour ces activités, qui est une activité médiumnique d'imposition des mains ou des passes. Le terme de Kardec é de imposição de mão, aujourd'hui, é um padre que é de passe. As reuniões mediúnicas, as atividades se dão no quadro de reuniões de desobsessão ou de socorro espiritual, de reunião de estudo e educação da mediunidade, e as atividades de passe são as atividades essenciais da mediunidade, podendo existir outras, mas essas são, normalmente, as atividades essenciais. Kardec nous dit, une réunion est un être collectif dont les qualités et les propriétés sont la résultante de toutes celles de ses membres. Et forme comme un faisceau. Or, ce faisceau aura d'autant plus de force qu'il sera plus homogène. Les résultats d'une réunion, c'est une somme. C'est le total de toutes nos possibilités, de tous ceux qui font partie. Il n'y a pas un médium qui soit capable de faire une réunion pour lui tout seul. Il en dépend de nos moyens spirituels, nos contributions spirituelles, pour que la réunion puisse offrir vraiment tout son potentiel pour aider et éclairer les esprits qui viennent parler avec nous. A reunião mediúnica é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são resultantes dados seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá quanto mais homogêneo for. A reunião depende da soma, das contribuições, daquilo que nós temos de amor e de desenvolvimento espiritual como oferta espiritual para que uma reunião possa realizar a sua finalidade séria e grave. Nenhum médium poderá fazer isso sozinho. Depende sempre da colaboração de todos. Então, Kardec nos diz, Kardec nos diz que tudo que se aplica ou reunião, em geral, se aplica naturalmente ou société régulièrement constituée. Soit tout ce que nous avons travaillé dans les livres des médiums, soit un besoin pour les médiums, soit un besoin pour les sociétés, pour les centres espirituels. Donc on ne peut pas dire les médiums doivent s'occuper de ses affaires et la gestion du centre spirituel de ses affaires aussi. Nous avons tous les mêmes responsabilités. Et il faut que ça soit très, quelque chose de très clair pour les responsables, pour qu'ils soient en condition de participer des réunions en connaissance des causes et d'appuyer cette réunion et de faire grandir cette activité qui est essentielle dans un centre spirit, une société spirit. Então, Kardec nous dit que tout aquilo que ele nous ensinou sobre as réunions médiumnes, tout se aplique à sociedades espíritas. Então, nossa tarefa, ela é comum. Os médiuns, os trabalhadores da casa espírita devem estar em consonância com a direção da casa, que deve conhecer a mediunidade e que deve participar dessas atividades para poder dirigir e orientar essas atividades também, tendo conhecimento daquilo que é a sua natureza. Então, Kardec, que nos ofereceu, desde a condição de médium, do papel dos médiuns, que nós precisamos estar em conjunto com outras pessoas que vêm dialogar com os espíritos, que dirigem as reuniões mediúnicas, que apoiam as reuniões mediúnicas através da prece, que atuam na reunião mediúnica aplicando passes. A reunião mediúnica é um conjunto de funções em que várias pessoas com perfis diferentes atuam para realizar a ação mediúnica. Kardec nous avait présenté toutes les possibilités de comprendre ce que c'est un médium, les personnes qui sont et qui font fonctionner une réunion médiumnique, l'existence même de la médiumnité dans toute sa possibilité, sa puissance. Il nous dit comment fonctionne une réunion, comment fonctionne une société spirite, et nous oriente tous les pas qu'on doit faire pour en arriver à un travail grave et sérieux, pour qu'on puisse avoir des informations sérieuses et élevées des esprits supérieurs qui viennent nous aider. Donc, la médiumnité est un élément très important, essentiel dans l'unification et la divulgation du spiritisme, parce que l'enseignement n'a pas été fini, n'était pas fini. Donc, nous avons tous les jours de nouveaux enseignements par les esprits supérieurs. Nous avons aujourd'hui à disposition toutes les informations que nous ont apportées, par exemple, André Luiz, qui sont traduites par la médiumnité de Chico Xavier, mais qui sont traduites aujourd'hui en français, que vous pouvez travailler au Centre Spirit pour approfondir et connaître plus de la médiumnité. Il y a plusieurs ouvrages qui viennent tout récemment pour nous dire de nouvelles choses et approfondir ce qu'on savait déjà. Mais c'est très important qu'on sache que le livre des médiums, il est essentiel dans un centre spirit. La connaissance de ce livre, on l'a oublié. Et aujourd'hui, quand on les prend pour travailler, on voit la vision de Kardec et toute sa compréhension élargie de tout ce qui pourrait nous arriver aujourd'hui. Parce que si on travaille, on voit l'actualité de tout ce qui nous a légué par les livres du médium. Et là, à la fin du livre, il y a des dissertations médiumniques. Et nous avons cette dissertation qui est de Saint-Augustin, qui nous parle de l'avenir du spiritisme et pour mettre en valeur la médiumnité et l'activité, la pratique du spiritisme. Il nous dit « Vous pouvez devenir un foyer de lumière pour l'humanité. Sachez donc distinguer les bons grands des livrés. Ne semez que les bons grands et gardez-vous de répandre l'ivraie. Car l'ivraie empêchera les bons grands de pousser et vous serez responsable de tout mal qu'elle aura fait. De même que vous seriez responsable de mauvaises doctrines que vous pourriez propager. » Donc, on voit toute la responsabilité. Nous avons entendu les récits du mouvement spirit, de l'unification, tous ces engagements, toutes ces institutions au niveau national, international. Et on voit que vraiment, il y avait déjà une connaissance de tout ce que nous pouvions faire pour arriver aujourd'hui là où nous sommes, dans un travail très large et très bien et structuré. Donc Kardec, no livro dos médiuns, finindo o livro dos médiuns, terminando o livro dos médiuns, nos coloca dissertações espíritas. E nessas dissertações espíritas, desculpe que eu não traduzi, que não deu tempo, ele nos diz que nós podemos ser realmente um lar de luz. Nós podemos ser um feixe de luz para a humanidade.
em função do trabalho de esclarecimento espiritual que é feito pela doutrina espírita. E que nós devemos fazer como na orientação de Jesus. Nós devemos ter cuidado com a nossa semeadura. Para não deixar, para cuidar para que o joio e o trigo, né, não, o joio não venha interferir na nossa produção de trigo de boa qualidade. Que ele diz que esse joio poderá impedir as nossas boas obras, ou seja, a nossa semeadura de qualidade. E que, efetivamente, nós respondemos se nós não tivermos o devido cuidado na propagação da doutrina verdadeira, na doutrina da verdade. E por fim, como tu do espiritismo há um but très élevé, moral d'amélioração, de renovação. E como nous avons entendu tout à l'heure, c'est l'évangile de Jésus avec sa morale élevée et pure qui doit nous conduire dans nos efforts, dans nos activités. Et dans l'évangile selon l'espiritisme, nous avons notre guide de tous les médiums, de toute activité médiumique. Kardec nous dit, la médiumnité est une chose sainte qui doit être pratiquée saintement, religieusement. Là, c'est le principe essentiel. La médiumnité, ce n'est pas pour notre plaisir, pour notre orgueil, mais pour qu'on puisse servir plus et mieux en toute conscience de la gravité de la possibilité que nous avons eue en travaillant avec la médiumnité, soit comme médium, soit comme quelqu'un qui intègre un groupe médiumnique. Merci beaucoup. Brasileiro. Para os meus queridos brasileiros, meus irmãos queridos duas vezes, é de que a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, o guia moral de todos nós, para que a gente possa praticar com humildade, com serenidade, sabendo que não é objeto nem da nossa glória, nem da nossa riqueza, mas da nossa melhoria. Que Jesus nos abençoe. E merci beaucoup.
Nous voici arrivés à la séquence réservée aux communiqués de nos partenaires. Aujourd'hui, il s'agit d'un communiqué de l'association Cœur SDF Liège, relayé par le Centre d'études Spirit Allan Kardec de Bruxelles. L'hiver approche, l'hiver c'est signe de froid et de beaucoup de souffrance pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un foyer et de rester bien au chaud. Alors, pensons à eux, avec beaucoup de tendresse, et faisons chacun de nous un petit geste simple, mais qui compte beaucoup pour eux. L'association Cœur SDF à Liège distribue chaque samedi de la soupe aux plus démunis, et ils veulent aider encore plus en distribuant des chaussettes, bonnets, écharpes, gants et couvertures. C'est un travail magnifique, mais qui a besoin de l'aide de tous pour continuer. Si vous voulez aider, prenez contact avec notre frère Martial de la Fédération Spirit de la province de Liège en formant depuis la Belgique le 0493 18 51 95 ou avec Sarah au 0494 15 05 24 ou mieux encore par courriel à l'adresse suivante coeurdf@gmail.com. Pour Liège, ou si vous habitez vous seul, apportez des chaussettes, bonnets, écharpes, gants, couvertures au siège social du CESAC à la rue Louis App 134 à Etterbeek, les samedis de 17h30 à 18h20. Merci de votre participation. Nous voici arrivés à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. en Belgique. Les secondes rencontres pour les jeunes et les enfants spirites du Bélux auront lieu cette année, le dimanche 20 novembre 2011 à 13h, au siège social de la Fédération Spirite de la province de Liège en Belgique, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Renseignements et inscriptions via la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou via courriel à l'adresse suivante fspl@spirite.be. En France, au moment où je vous parle, la majorité des événements programmés par le mouvement spirit francophone viennent juste de se terminer, notamment le 4e congrès francophone de médecine et spiritualité qui avait lieu à Paris le week-end du 29 et 30 octobre 2011. Nous en reparlerons lors de notre prochaine émission. Nous voici arrivés à la séquence réservée à la présentation de livres spirit. Bonjour Arlette.
Bonjour Gérard. Je vais vous présenter ce jour deux livres psychographiés par Francisco Candido Xavier, dictés par l'esprit Emmanuel. Le premier livre, Renoncement, est le récit qu'Emmanuel nous offre une fois de plus sur l'une de ses incarnations sous le personnage du père Damien, vicaire de l'église Saint-Vincent à Avila en Espagne. Il est agrémenté de données historiques sur les faits qui ont marqué la vie au XVIIe siècle. À travers l'histoire d'Alcyone et de Charles, l'auteur nous propose un large éventail de réflexions applicables à notre propre existence. Ce roman décrit l'existence d'Alcyone, un être qui passe par une incarnation de renoncement et de dévouement pour ceux qui l'entourent, donnant la preuve de son héroïsme et de sa loyauté dans le Paris frivole du règne de Louis XIV. Il présente tout le sacrifice d'amour de cet esprit d'abnégation qui vient à nouveau se confronter aux luttes terrestres et vivre avec celui pour qui elle avait intercédé au niveau spirituel, se proposant de l'aider dans ses épreuves d'expiation et de réparation lors de cette nouvelle existence sur terre. Un grand amour du passé, les justesses et les erreurs de ce groupe de personnes qui réincarnent ensemble pour de nouvelles conquêtes spirituelles et le dévouement plein d'amour de la douce Alcyone servent de toile de fond au déroulement émouvant de cette trame marquée aussi par des sentiments violents, nous mettant en garde quant à l'illusion de la matière face aux réalités éternelles de l'esprit. Le deuxième livre, toujours dicté par l'esprit Emmanuel et psychographié par Francisco Candido Xavier, retrace des épisodes de l'histoire du christianisme au IIIe siècle, le titre étant « 50 ans plus tard ». Dans ce roman, Emmanuel nous raconte une histoire liée au christianisme du IIe siècle. Certains personnages du livre de « Il y a 2000 ans » reviennent séjourner sur terre et sont touchés de manière évidente par la loi de cause à effet. L'un des protagonistes de cette œuvre, le sénateur Publius Lentulus, est présent ici sous un nouveau visage. Il incarne, en tant qu'esclave, Nestor. Cet esclave a, lors de son retour sur terre, une attitude plus humble. Il se trouve maintenant dans une classe sociale que son cœur orgueilleux avait opprimée lors de son expérience antérieure. La miséricorde du Seigneur lui permet de racheter, sous la personnalité de Nestor, les erreurs et les actes arbitraires commis dans le passé. À l'époque où, investi d'une autorité publique, il présumait fièrement avoir entre ses mains tous les droits et tous les pouvoirs. Le personnage central de ce livre, néanmoins, est une femme, Célia, un cœur sublime dont l'héroïsme divin a été, selon Emmanuel, une lumière constante sur la route des nombreux esprits amers et souffrants. Elle a compris et vécu les leçons de Jésus pendant son passage douloureux sur terre. Ceci termine la présentation des deux livres et je vous souhaite à tous une très bonne lecture. Au revoir Gérard et à bientôt.
Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.